Père, Seigneur, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'on est approché devant toi, Seigneur, ce soir. Je te remercie pour ta douce présence qui est là. La présence glorieuse de ton Saint-Esprit qui nous remplit, qui nous revêt, qui nous équipe. Puis tu veux manifester ta présence au milieu de nous. On te donne pleine liberté, Seigneur. Je te demande aussi de parler à nos cœurs par ta parole. On te fait confiance, Seigneur. Je sais que tu es en train de bâtir un fondement solide qui fait partie des choses de base de notre foi, puis qu'on doit bâtir notre vie là-dessus, sur tes promesses, sur ta parole, puis on croit en ta parole, Seigneur, puis on le sait qu'elle est vraie. Je te remercie de ce que tu vas faire au milieu de nous, dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Un jour, les disciples sont venus auprès de Jésus. Parce que là, c'était comme tout nouveau. C'était tout comme des Juifs qui n'avaient pas d'instruction. Ils étaient habitués d'aller au temple. Mais il y avait quand même une vie religieuse qui se passait dans ce temple-là. Mais c'était une vie religieuse dans le vrai sens du mot. Religieux. Les cœurs étaient pas mal détournés de Dieu. Au point que, quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher, il a commencé tout de suite à lui dire qu'il devait se repentir, puis qu'il devait avoir des vies qui étaient conformes à la parole de Dieu, puis qui portent du fruit digne de la repentance. Jean-Baptiste a commencé à brasser tous les chefs religieux qu'il y avait dans cette époque-là. Jésus, quand il est arrivé, quand il était présenté au peuple par Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste avait été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur, Jésus arrive en scène, premier message qu'il commence à prêcher, « Repentez-vous et croyez que le royaume de Dieu s'est approché, et ainsi de suite. » Puis les premiers disciples, c'était pas déjà instruits de la parole de Dieu, bien qu'ils allaient à l'église, mais pas à l'église, mais au temple, pour aller entendre la parole de Dieu. C'était des pêcheurs, des gens qui allaient à la pêche, sont venus au monde dans une chaloupe, puis allaient à la pêche pour gagner leur vie. C'est un métier qui était de père en fils. C'était des gens sans instruction, que la Bible nous dit. C'était du monde ordinaire. Puis je pense qu'on se reconnaît dans ce monde-là. On fait partie de du monde bien ordinaire. C'est du monde comme nous, qui ont été choisis comme étant apôtres. Ces gens-là, ils voulaient apprendre à connaître c'est quoi le nouveau chemin que le Messie est en train d'enseigner. Ils voulaient apprendre comment ça marche, la vie chrétienne. Puis le sujet pour lequel, dans Luc 11 qu'on va aller voir, le sujet pour lequel les disciples sont approchés de Jésus, puis ils ont posé une question. « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Là, on se dit, comment se fait que là, les disciples qui est supposés qu'ils sont des Juifs, puis qui sont comme, ils vont au temple à tous les semaines. Tu sais, comme tout le monde, ils allaient au temple, dans le temple de Salomon, ils entendaient parler la parole de Dieu selon l'Ancien Testament, puis ils posent la question à Jésus, enseigne-nous à prier. Des fois, là, on a des manières de prier qu'on a appris de notre ancienne vie, dans le sens que, quand mes parents nous ont montré à prier, ou nos arrière-parents, nos grands-parents, puis il y a une méthode, puis là on voit les gens aller, puis on n'est pas sûr que c'est vraiment la vraie manière de prier. Tu vois les gens qui récitent des affaires apprises par cœur, puis qui en rajoutent, puis en rajoutent, puis ils récitent, quand on voit les gens faire des chapelets, comme j'ai vu des gens prier en faisant des chapelets, puis... Tu te poses la question quand tu deviens chrétien, c'est quoi la vraie manière de prier? On a besoin d'apprendre comment prier. C'est pas automatique qu'on le sait. Les disciples ont vu Jésus qui passait la nuit en train de prier. Jésus prêchait toute la journée, puis il devait dormir des bouts, je sais pas quand il dormait. Des fois, il dormait le jour, des fois, il dormait la nuit. Mais des fois, il passait la nuit à prier. Quand, comme il a choisi les 12 apôtres, il a passé la nuit à prier pour le lendemain avoir vraiment une parole inspirée de son Père pour choisir les bons candidats, ceux qui étaient appelés à devenir les apôtres. Les disciples voulaient apprendre à prier. Puis là, on va lire notre texte là-dessus. dans Luc 11. On va y aller par petits bouts, parce qu'on va lire plusieurs versets, puis on va y aller par bouts. On va partir du verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Moi, je pense que c'est une question que tous les chrétiens devraient se poser. Pas se poser, mais la demander à Dieu, « Seigneur, montre-moi comment prier. » Puis je pense que c'est un bon sujet de prière, de demander comment prier. Parce que des fois, on peut être chrétien et on prie mal. Comme qu'on voit dans Jacques, il dit « Vous priez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Puis là, ils se font traiter d'adultère parce qu'ils aiment les choses qu'il y a dans ce monde. Il y a une manière de prier, il y a des sujets de prière à prier. Puis, le Seigneur nous encourage par deux petits exemples par la suite de cet exemple de prière-là pour nous dire qu'il faut persévérer dans la prière. Jésus a commencé à leur montrer comment prier. Au verset 2, il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Matthieu, lui, dans la même prière, il rajoute une phrase, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Puis après ça, on continue dans Luc au verset 3. « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » On s'arrête là. Voyez-vous, là, si je pose la question « comment prier, pas comment prier », si je vous dis « prier », première chose qu'on fait tout de suite, on prie toujours des choses pour demander ce qu'on veut. Seigneur, j'aimerais avoir ci. Seigneur, j'aimerais avoir ça. Seigneur, voudrais-tu faire ça pour moi? C'est vrai, ça? Ça fait partie d'une habitude. Et pourtant, si on regarde tranquillement ce verset-là, au verset 2, la première chose qu'on doit faire quand on commence à prier, c'est premièrement de mentionner à qui ce qu'on parle. On l'appelle Père, parce qu'il ne faut pas se cacher que c'est pas tout le monde qui prie le Père. Il y en a qui prient Bouddha, il y en a qui prient les mille dieux des Krishna, il y en a qui vont prier Marie, il y en a qui vont, tu sais, ils vont prier le grand-père qui est mort, il y en a d'autres qui vont prier, tu sais, ils prient n'importe qui, n'importe comment. Par réalité, il n'y a qu'une personne à qui ce qu'on s'adresse, c'est au Père. C'est qui ça, le Père? Dieu, le Père. Pourquoi qu'on l'appelle le Père? Parce que c'est lui qui a engendré toute chose. Il est le géniteur de toute la création. C'est lui qui est le Père de tous. Il y a un seul Dieu, un seul Père qui a engendré tout le monde sur la terre. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas rien ce qu'on voit qui ne vient pas de Dieu. Mais quand on s'adresse à quelqu'un, on s'adresse au Créateur. Père, première chose que je lui dis, pas « je veux ça, je veux ça, je veux ça », que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que le début de notre prière, ça doit être de quoi qu'on donne à Dieu. De la louange, des actions de grâce, de la reconnaissance, des remerciements, de l'élever, de l'exalter, de le louer, puis lui dire comment ce qui est bon, comment ce qui est grand, comment ce qui est merveilleux, comment ce qui est tout-puissant, puis qu'on le remercie, puis on est reconnaissant pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit sanctifié, ça veut dire sanctifié, on l'a vu dans l'étude la dernière fois, que ton nom soit saint. Ça veut dire aussi que ton nom soit sacré. Que ton nom soit tellement sacré que le monde ne le prenne pas en vain. Que ton nom soit respecté comme étant non une chose profane, une chose ordinaire, mais un nom sacré. Fait que quand on s'adresse à Dieu, ce qu'on devrait prendre d'habitude, si on veut suivre ce que Jésus nous a montré comment prier, on devrait commencer à dire des louanges à Dieu, puis des remerciements, puis de l'élever. Pas tout de suite aller, tu sais, t'arrives à ton père, Pat, tu sais que t'es fin, hein, tu sais que t'es beau. T'sais, là, après ça, tu lui demandes 5$. Tu commences pas tout de suite de moins 5$. Ça manque un peu de la bienséance, de la bonne manière de se présenter, puis tu sais, de l'aromatisation. Faut t'en mettre. Si tu sais même ton boss au travail, si tu sais comment y parler, tu vas y dire des choses, ça va y faire du bien, puis après tu lui demandes de quoi, tu vas être quasiment sûr de l'avoir. C'est le même dans la vie, mais comment encore plus grand que ça va l'être vrai cette histoire-là quand on s'adresse à Dieu le Père qui mérite ces louanges-là. Puis des fois, c'est avec ingratitude qu'on y demande. On y demande, puis on y donne jamais assez de remerciements pour tout ce qu'il nous a déjà donné. Juste le fait de vivre ici au Québec, comment est-ce qu'on est béni, on a le ventre plein, on a du chauffage quand il fait froid, puis on tient. C'est des bénédictions de Dieu, ça. Faut pas voir ça comme si c'est acquis. Il mérite nos louanges. Fait que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Là, on est en train comme de demander une prière pour lui. Parce que Dieu veut régner sur cette terre. Dieu veut prendre ce qui lui est son dû, son droit. Il est le Créateur, il est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Puis c'est rien de normal qu'il prenne le contrôle de cette planète. On devrait être en train d'intercéder pour ses besoins à lui en premier. Que ton règne vienne. Viens, Seigneur, puis prends le contrôle. Bon, il dit que ton règne vienne, puis que comme Matthieu rajoute, que ta volonté soit faite sur la terre comme qu'elle l'est au ciel. On veut que les choses de Dieu avancent sur la terre. On veut que son royaume s'étende. On veut que les gens entendent parler du salut, puis qu'ils viennent à Jésus-Christ, puis qu'ils puissent le glorifier, puis le sanctifier, puis qu'ils puissent régner sur leur vie. Fait que, Seigneur, fais avancer ton œuvre. Ça devrait être les premières choses qu'on présente à Dieu quand on demande de quoi au Seigneur. Après ça, on peut commencer à demander des affaires pour nous. Comme, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Dieu veut pourvoir à tous nos besoins. Puis c'est écrit dans d'autres promesses, des versets de la Bible qui nous dit que Dieu, il nourrit les oiseaux du ciel, puis il nourrit les animaux, puis ça. Il est capable de prendre soin de nous autres, puis de nous nourrir. Il dit, à combien ne valiez-vous pas plus qu'eux? Puis là, Jésus, quand il a dit ça, il traita les gens de manque de foi. Homme de peu de foi. Tu sais, on s'inquiète avec « Je vais-tu manger? Je vais-tu avoir de quoi à boire? Je vais-tu avoir de quoi à manger? Je vais-tu avoir de quoi à me mettre sur le dos? » C'est un manque de foi. Dieu, il est déjà prêt à nous donner tout ce qui est nécessaire à notre vie. Tu sais, on mène à cela? Moi, je le crois. Puis je le vis. Je l'expérimente. Je vois la main de Dieu dans ma vie qui pourvoit à mes besoins. Après avoir pris un bon temps pour le louer, puis l'adorer, puis prier pour son avancement, prier pour ses besoins à lui. Après ça, donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés. Pourquoi qu'il nous dit pardonne-nous nos péchés? On était pardonnés quand on est venu à Jésus. Quand on l'a accepté. On n'était pas rendu parfait quand on s'est converti. Il nous a pardonné nos péchés, oui, c'est vrai. À partir du moment que tu donnes ta vie au Seigneur, il te pardonne de tous tes péchés. Mais l'autre péché que tu as fait 2 heures après, 5 heures après, le lendemain, puis le surlendemain, puis combien d'autres péchés que tu as fait après que tu t'es converti? Faut encore que tu fasses à tous les jours demander pardon au Seigneur. La preuve, il dit dans cette prière-là, comme exemple, demandez pardon à Dieu pour vos péchés. À moins que vous priez une fois par mois, là, vous l'allez le demander qu'une fois par mois, mais normalement, on sera supposé de parler à Dieu à tous les jours. Puis si c'est inclus dans vos requêtes de prière, mais demandez pardon à Dieu, comme qu'on voit dans 1 Jean, Il dit, pour que tu puisses demeurer à marcher dans la lumière, pour que tu sois pleinement, mutuellement en communion entre toi et Dieu, tu dois confesser tes péchés. Si tu dis que tu n'en as pas de péché, tu es dans les ténèbres. Tu marches dans les ténèbres. Mais si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner et te purifier de toute iniquité. On a toutes fait des péchés, puis on en fait encore, puis on va en faire encore. Mais l'important, c'est que ça, tous les jours, on demande pardon au Seigneur, parce que ça l'offense, ça l'attriste. Ça lui fait de quoi quand on manque le but, qu'on vit d'une manière qui n'est pas conforme à sa volonté. Mais si on lui demande pardon, il jette tous nos péchés dans la mer de l'oubli. Vous avez déjà entendu celle-là? C'est une mer, puis c'est une mer qui s'appelle la mer de l'oubli, puis il garoche nos péchés dans la mer de l'oubli, puis il y a une pancarte sur le bord de la plage qui est marquée « Défense de péché ». Ça veut dire, il a jeté tes péchés-là, puis retourne pas après, je vais essayer d'y ressortir. Ça, c'est une farce, c'est pas écrit dans la Bible, mais c'est quand même une image qui est comique, puis en même temps, il y a une vérité. Parce que si le Seigneur t'a pardonné un péché, laisse pas le diable te ramener une culpabilité par après pour te garder dans l'humiliation, puis t'écraser, puis tiens paralysé à cause de tes péchés. Crois que quand tu demandes pardon, il te pardonne, il te purifie, puis t'en es délivré. Puis là, si tu vas voir la main du Seigneur sur ta vie, puis le Seigneur va te renouveler, il va te transformer, il va te remplir de son Saint-Esprit, puis il va te revêtir de sa puissance, il va t'équiper de ses dons, puis il va t'utiliser pour la gloire de son nom. Et tu sais, amen?
Amen.
Il dit, pardonne-nous nos péchés, comme aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Oui. Tu sais, quand le message d'hier, c'est à quoi? Qu'on essaye de garder une unité, qu'on soit un, comme Jésus était un avec son Père. Il y avait une parfaite communion ensemble. Ça veut dire que si j'ai mes frères et sœurs, je veux être un, et s'il y en a un qui m'offense, j'y pardonne. Je veux avoir l'unité, faut que je lui pardonne. Je peux pas garder de rancune contre les frères et sœurs. La Bible a dit, si tu es en frustration, tu as des problèmes avec un frère ou une sœur, va te réconcilier avec ton frère. Laisse-là ton offrande, va te réconcilier avec ton frère. Aux yeux de Dieu, c'est plus important qu'on y aille se réconcilier que n'importe quelle offrande que tu es en train de lui donner. Dieu trouve ça extraordinaire quand il voit deux de ses enfants qui... Ils se réconcilient, puis ils se regardent avec des sourires, puis après ça, ils se serrent dans leurs bras, puis ils se bénissent un l'autre. Dieu, il aime ça. Ça réjouit son cœur, ça réchauffe son cœur. Et le mien aussi. Puis, ne nous induit pas en tentation, ça veut dire, on sait que c'est pas Dieu qui va nous amener dans une tentation, mais Dieu sert de ce qu'il y a autour pour nous donner aussi une porte de s'en sortir. Dieu sert de ce qu'on vit, puis on le sait que l'induction ou la pensée qu'on va avoir, c'est une pensée qui nous amène à sortir de notre situation. Ça, c'est les pensées de Dieu. Dieu veut nous sortir des situations, des pièges de l'ennemi, puis de tout ce que le diable essaie de nous garder captifs, puis nous ralentir. Puis là, à un moment donné, Dieu donne une parole, puis là, il dit, « Sors! » Sois libéré, puis là ta vie change, puis tu cours comme un chien qui sort de sa cage, puis qu'il est lousse, puis là il court, puis il est content de courir parce qu'il s'en libre. Quand Dieu veut libérer son peuple. Puis là, pour nous donner des exemples d'encouragement, pour dire Dieu veut exaucer vos prières, parce que ça c'est une méthode de s'approcher, mais il leur donne un exemple tout de suite. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami qui a le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi puis j'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. » Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce qu'il a de besoin. Là, on voit dans ce texte-là, les disciples s'approchent de Jésus, puis « Enseigne-nous à prier ». Là, Jésus donne quelques points de sujet de prière, puis tout de suite, Jésus redonne aussi cette parabole-là, un exemple qui fait partie aussi, je veux vous enseigner comment prier, là. C'est ça que Jésus est en train de dire. Puis c'est important que vous compreniez cette vérité-là dans ce passage-là aussi. Que quand vous priez, c'est le même exemple que si tu irais voir ton ami la nuit, puis tu le déranges pour avoir de quoi à manger, pour donner à quelqu'un, puis même si ça ne tente pas, le fait que tu l'achales, puis tu le rachales, puis tu le rachales, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que Jésus a dit que ton ami va faire? Il va t'en donner pareil, même si ça ne tente pas de se lever. Parce que tu l'achales. Mais il dit la même chose devant Dieu. C'est ça qu'il veut nous donner comme exemple. Dieu, il aime ça se faire achaler dans les prières. Si ça ne serait pas vrai, Jésus n'aurait pas pris la peine de dire cet exemple-là. Cet exemple-là, c'est pour renforcer le sujet de la prière. Autant que cette personne-là ne s'est pas gênée la nuit pour aller déranger son chum parce qu'il n'avait besoin de quoi manger. Autant que Jésus a dit que c'est sûr qu'il va l'avoir son pain parce qu'il va la nuit et il va l'achaler jusqu'à temps que l'autre y donne. Mais il dit, par son importunité, il a tellement dérangé qu'il a fini par obtenir tout ce qu'il avait besoin. Puis Dieu veut qu'on pense comme ça. Quand on prie, puis qu'on achale, puis qu'on achale, puis qu'on achale, il faut continuer à achaler jusqu'à temps qu'on l'ait eu. Il dit, il va y donner tout ce qu'il avait besoin. Si Jésus dit ça, c'est parce que Dieu, il est déjà disposé à exaucer nos prières. Dieu est déjà prêt à nous donner tout ce qu'on a de besoin, mais il aime ça se faire achaler. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Faut pas arrêter de l'achaler. Parce qu'on y demande une fois ou deux, puis on arrête d'y demander, puis on s'en va. Je l'ai déjà donné comme exemple. Ton enfant vient à toi, puis là, il tire après tes culottes, puis là, il veut attirer ton attention, puis il va avoir 5$. Mettons, j'ai trouvé l'exemple d'un 5$, mais aujourd'hui, c'est plus 5$ qu'il demande. c'est des 20$ ou des 50$. Mais là, il tire tes culottes, puis il lâche pas tant que tu n'as pas ton attention, puis il va te le demander, puis là, tu finis ta minute. Mais si tu mets ta main dans ton portefeuille au bout de 5-6 fois qu'il t'a achalé, mais il se sauve en courant, il s'en va, puis il n'attend pas le 5$. Il s'en va. Qu'est-ce qui arrive? Ah, tu étais déjà disposé à y donner, mais il est parti avant que tu y donnes. Il va s'en passer. Il est parti. L'exemple là-dedans, c'est qu'il faut que tu comptes, quand tu commences à demander, continue à demander, jusqu'à quand faut que tu demandes? Jusqu'à temps que tu l'aies, ton exaucement. Tant que Dieu te dit pas de non, ça veut dire que c'est encore l'espoir que ça soit oui. Si c'est dans une raison spécifique, Dieu a un plan pour une situation, puis Dieu veut pas donner cette chose-là, il va te dire non, il va te montrer de ne pas prier pour ce besoin-là, il va dire de regarder à d'autres choses. Oui, ça n'est un exemple. Quand Samuel, le prophète Samuel, grand prophète de Dieu, puis il priait Dieu pour Saül. Mais Saül, il a été rejeté par Dieu, puis c'était point final dans son cas, c'était non. Puis même s'il aurait prié jusqu'à demain, c'était non. Puis il l'a pas eu. Puis David, quand il a prié pour son enfant, c'était dans un enfant qui est en train de mourir, puis ça, c'est un jugement de Dieu pour une situation bien précise. Dieu a un plan. Je dis pas que c'est au haut des jugements, mais il y a un plan pour l'histoire. Il faut y faire confiance. Puis si c'est un non, faut pas être découragé. Il faut continuer à demander des choses ou d'autres choses. Il faut toujours être en train de demander des choses à Dieu. Combien de fois aussi, là, on a vu deux exemples négatifs, mais combien de fois dans la Bible qu'on a vu dans l'Ancien Testament, que Dieu a changé la situation suite à la prière. Il y en a plein de fois, je vais vous donner trois bien vite, en Genèse 25, 21, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Elle était stérile. Puis Dieu l'a exaucée pour qu'elle ait un enfant, puis c'était même dans le plan de Dieu qu'il fallait qu'elle ait un enfant. Elle fait partie de la lignée messianique. Abraham, Isaac, Jacob, fallait qu'elle vienne au monde. Jacob. Puis Rachel, mais je l'ai mis comme exemple. Anne, mais je l'ai mis. Rachel, je ne l'ai pas mis, mais Anne, je l'ai mis. 1 Samuel 1:27. Anne, c'était pour cet enfant que je priais, puis l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Elle était stérile, elle aussi. Stérile, c'est qu'elle ne peut pas en avoir d'enfant. Ben, elle a atteint un certain âge, puis c'était rendu une honte pour elle. Dans cette période-là, les femmes, c'était une honte si une femme n'avait pas d'enfant. Elle était regardée de travers, puis le monde, il se disait, elle doit être sur un jugement de Dieu. Au Québec, on vécu ça. Oui, dans le temps de l'Église, oui. À une autre place, Samuel, il prit un agneau de lait, il l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, puis l'Éternel l'exauça. Puis là, ça a le fait qu'il y a une guerre qui a été gagnée contre les Philistins. Sinon, Israël sera fait balayer par les Philistins à rentrer dedans. Mais à cause de la prière de Samuel, Dieu l'a exaucé, puis c'est le contraire qui est arrivé. Mais ça, j'ai donné trois petits exemples bien vite. Il y en a plein d'exemples dans la Bible que c'était des situations impossibles. Puis Dieu a exaucé les prières de ceux qui lui demandent des choses. Puis il en exauce encore aujourd'hui. Amen. On va en voir d'autres en plus. Amen. Gloire à Dieu. Dans le même verset, là, quand je continue l'histoire, après qu'il ait dit là, que l'ami va aller achaler l'ami, il est encore en train d'enseigner à ses disciples comment prier. Jésus rajoute, « Et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre celui qui frappe. » Avec ces versets-là, là, ça veut-tu dire que Dieu est déjà disposé à exaucer quiconque demande, reçoit. Dans le Nouveau Testament, Dieu est déjà disposé à exaucer les prières de tout le monde. Même si les gens ne connaissent pas encore parfaitement Dieu, ils peuvent quand même s'adresser à Dieu, puis Dieu va se révéler. Un exemple de ça, Corneille. C'est un homme pieux. Il connaissait Dieu selon ce qu'il avait entendu de la manière des Juifs, mais c'est un homme qui aimait quand même Dieu. Mais il n'était pas sauvé. Puis il faisait beaucoup de monde, puis c'est un homme pieux. C'est un homme qui priait, mais il n'était pas sauvé. Puis à cause de ça, Dieu envoyait un ange parler à Corneille pour lui dire, « Envoie de chercher Pierre. » Puis il va te l'expliquer le chemin, comment faire pour être sauvé. Quand Pierre est arrivé là, il a commencé à y parler de Jésus, puis en y parlant, le Saint-Esprit est descendu, parce que tout le monde croyait à ce que Pierre est en train de dire. Puis le Saint-Esprit est descendu, puis ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit, puis ils parlaient en langue, puis ils prophétisaient. La puissance de Dieu était déversée sur des gens qui cherchaient, et quiconque demande reçoit. Corneille, il demandait, il voulait savoir le chemin. C'était pas un juif, c'était un romain. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, tu cognes à la porte. Seigneur, on vous ouvrira. Il y a juste un moment dans la vie que je vois qu'il y a du monde qui ont frappé et ça n'a pas été ouvert. Un coup que la porte a été fermée. Les 10 vierges, les 5 qui étaient sages, les autres qui ont rentré à l'enlèvement, puis les autres après l'enlèvement, ils ont cogné, Seigneur, ouvre-nous. Il dit, retirez-vous de moi. Après l'enlèvement, la porte de la grâce va être fermée, mais avant l'enlèvement, tout le monde qui cogne reçoive. C'est encore le temps de cogner parce qu'on est encore ici sur cette terre. Dieu va répondre. Puis Dieu sait comment répondre. Si une personne crie, Seigneur, je veux te connaître, je veux apprendre à te connaître, je veux savoir comment faire pour être sauvé, ou je crie à toi pour que tu me délivres, ou n'importe quoi qu'on peut demander à Dieu, Dieu va répondre. Parce que Dieu, il est là tous les jours. Il n'y a pas un endroit qu'on peut aller sur la terre où Dieu n'est pas là. Dans Job, si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends au séjour des morts, tu y vois là. Si je prends les ailes comme l'aurore, puis je vais à l'extrémité de la terre, là aussi ta droite me conduira, puis me saisira. Si Dieu, au moins les ténèbres vont me couvrir, mais il dit la nuit devient lumière devant moi. Il n'y a pas un endroit que tu peux aller sur la terre parce que Dieu n'est pas là. Fait que si tu es là dans ta chambre, il dit même, va dans ta chambre, prie ton Père qui est dans les lieux secrets, puis ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Hallelujah! Dieu veut qu'on le cherche, puis Dieu va répondre, parce qu'il est là. Puis le dernier passage dans le même texte, pour encore parler de la prière, tant qu'à se faire enseigner sa prière, Jésus eut le malpaquant, puis il dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Il dit, méchant comme vous êtes, bon, puis c'est vrai, là, il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Notre bouche est comme un venin d'aspic. Nos lèvres, tu sais, c'est rien que de la corruption qui sort de nous. On est quand même capable de donner une bonne chose à notre enfant. On ne cherche pas à l'empoisonner. S'il nous demande un œuf, c'est parce qu'il a faim, on ne donnera pas un scorpion pour l'essayer empoisonner. Si nous autres, on réussit, méchants comme on est, à faire du bien à nos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il les bonnes choses à ceux qui lui demandent? Puis dans ce verset-là, c'est le Saint-Esprit, mais dans Matthieu, c'est « lui donnera les bonnes choses à ceux qui lui demandent ». Parce que ça, si tu mets tout ça ensemble, il veut donner les bonnes choses et le Saint-Esprit à tous ceux qui lui demandent. Parce que quoi? Parce que Dieu est un Père qui est bon. Dieu est un Père qui est bon. Si moi et nous autres, on arrive à faire des bonnes choses, mais Dieu, il est bon. Dans le grand sens du mot. Nous autres, c'est rien que dans un petit sens, parce qu'il y a de bon que Dieu seul. Jésus qui s'est fait dire ça. Jésus, il y a quelqu'un qui a dit, « Bon maître! » Non, il y a de bon que Dieu seul. Puis Dieu qui est bon veut déverser ses bontés, puis veut donner ses bontés, les bonnes choses à ceux qui lui demandent. Puis Dieu sait ce qu'on a de besoin. Dieu le voit, mais il attend qu'on le réclame. Parce que Dieu, il a installé le système comme ça, il aurait pu toujours nous donner tout ce qu'on a de besoin sans jamais rien demander. Mais il a fait le système qu'il veut qu'on s'arrête, puis qu'on lui parle. Ça fait qu'on est plus dépendant de lui. On lui fait confiance. Puis il aime ça, voir ça, des gens qui ont confiance en lui. Pour notre sécurité, on la met en l'Éternel, qui est notre rocher, notre forteresse, notre libérateur, notre secours. C'est lui qui renouvelle ses bontés à chaque matin. Puis elles ne sont point épuisées. Tu sais, c'est fort. Fait que lui, le Seigneur, quand il nous voit qu'on marche dans cette attitude-là, c'est ça, marcher par la foi. Tu marches dans une pleine confiance que Dieu, il tient ta main, il tient ta vie dans ses mains, puis tu fais confiance que Dieu, en y demandant à Dieu, il va te donner ce que tu as besoin pour ta vie. Puis Dieu va continuer à répondre pour ta vie, puis c'est ça, une marche par la foi. Ayez foi en Dieu! C'est ça que ça dit dans le verset. Puis dans le verset qui suit ça, ça dit, « Si vous dites à cette montagne, déracine-toi et jette-toi dans la mer, si tu crois, si tu doutes pas dans ton cœur, mais si tu crois à ce que tu dis, arrive, tu verras s'accomplir. » Que ce soit un arbre, une montagne, n'importe quoi qui est dans ta vie, qui te bloque, qui t'empêche d'avancer, t'es lié, t'es enchaîné, t'es écrasé, t'es abattu, dis, tu mets ta foi en Dieu, mon Dieu est avec moi, puis Dieu va me sortir de toutes mes épreuves, puis tu parles à la montagne dans le nom de Jésus, tu t'en vas, puis elle va partir, parce que c'est Dieu qui va l'enlever de là, parce que tu as mis ta foi en Dieu. Pouvons-nous se présenter à Dieu avec la même attitude, la même foi que David, dans un verset qui dit « Je t'invoque, car tu m'exauces. Ô Dieu, incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. » C'est un beau verset, dans le psaume 17 au verset 6. Il dit « Je t'invoque, car tu m'exauces. » Il savait que quand il invoquait que Dieu était pour l'exaucer. Sinon, ça serait une autre attitude, ça serait « J'y parle plus parce que ça marche pas les prières. » Ça, c'est le contraire. Lui, c'est « Je t'invoque, je te prie, je te le demande, ben je le sais que tu m'exauces. » C'est cette attitude-là qu'il faut développer. Puis s'il arrive des malheurs dans votre vie, puis le monde j'en viens de te dire « As-tu vu qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie, puis c'est ici, puis c'est ça? » C'est pas grave, je continue à faire confiance à Dieu parce que Dieu va me sortir de ce problème-là. Ça, c'est la même chose que ça veut dire. On va prier. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus qu'on est rassemblés. Puis je te remercie pour ta parole qui nous encourage à prier, puis à continuer à prier, puis à aller de l'avant dans la prière. Merci de nous enseigner comment prier. Puis on veut te rendre la gloire qui te revient. On veut que ton nom soit sanctifié. Puis on veut que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Viens la faire en moi. Viens la faire en chacun, dans ma famille, dans chacun de mes frères et sœurs. Viens la faire, Seigneur, dans leur famille. Puis dans les villes et les villages environnants, Seigneur, dans tous les gens qui nous entourent. Qu'il y ait une effusion de ton esprit, puis que les gens tombent dans une conviction de péché, de justice et de jugement, que les gens s'approchent de toi, puis en te confessant leurs fautes, qu'ils reçoivent le salut, puis qu'ils apprennent à marcher par la foi jusqu'à la fin de leur jour. On remet nos vies entre tes mains, puis le reste de cette réunion, dans le nom de Jésus. Amen.